Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de l'association À Vue de Truffe, l'école de chiens guides de Caen-Normandie à Mondeville. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Clément Martin, qui est instructeur en locomotion et qui accompagne notamment les bénéficiaires de l'association. Bonjour Clément.
Bonjour Dakota.
Merci d'être là avec nous tout d'abord. Et on aimerait en savoir un petit peu plus sur ton rôle à l'association, sur ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce métier particulier d'instructeur en locomotion que tu exerces avec nous donc depuis 2022?
Donc la locomotion, ou orientation et mobilité, ça dépend les termes, mais on en reviendra après, c'est une éducation ou une rééducation qui s'adresse à toutes les personnes atteintes de déficience visuelle, donc innée à la naissance ou acquise au cours de sa vie. C'est surtout, et ça s'adresse principalement à des gens qui éprouvent du coup une gêne dans leur déplacement, elle a pour objectif de permettre à la personne de se déplacer de façon autonome, avec un maximum de sécurité, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans un lieu connu ou inconnu. Que propose un instructeur de locomotion? Alors il va proposer, pour parvenir à des déplacements autonomes, différentes techniques et stratégies spécifiques, basées sur le développement optimal des possibilités, donc sensorielles, cognitive ou psychosociale. Donc pour lister un petit peu ce qu'on peut amener et travailler en locomotion, donc il y a tout ce qui est technique de protection et détection des obstacles. Donc ça peut passer par la technique de canne, les stratégies de balayage visuel. On va avoir tout ce qui est gestion de l'axe de déplacement, être capable d'aller de tenir une ligne droite sur un trottoir, garder un cap. On va avoir des méthodologies bien spécifiques à la locomotion, ça va être la prise de repères, l'orientation dans l'espace, les représentations mentales. On va avoir les techniques et stratégies de traversée, ça peut être aussi l'utilisation du transport en commun et l'utilisation d'aides techniques, donc l'apprentissage de la canne par exemple, l'utilisation d'aides optiques ou de technologies comme les GPS en particulier, mais pas seulement. Donc voilà, donc on a tout ce bagage qu'on peut mettre en place, et c'est vrai qu'à des fois un peu à tort, on résume souvent la locomotion à la canne blanche, mais finalement ça représente une infime partie de notre travail. Hein. Nous on va développer de manière optimisée le potentiel de chaque personne pour lui permettre d'atteindre, on va dire, le maximum de ce qu'il est possible d'atteindre en fonction de ses besoins et de ses désirs. Hein. On va pas apprendre à traverser la place de l'Étoile si la personne habite dans un village en bord de mer. Voilà, on va essayer d'adapter ce qu'on propose en fonction des attentes de la personne.
Donc à chaque fois, en fait, il faut savoir s'adapter. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'à chaque fois, là, il y a des techniques globales, mais en fonction de la personne, de ses possibilités visuelles aussi, de son habitation, enfin voilà, de son environnement. Mmh. C'est ça qui va permettre d'apporter une réponse personnalisée en fait.
À la personne. Exactement. Par exemple, quelqu'un qui a un potentiel visuel résiduel, on va chercher à l'optimiser. Quand on dit chercher à l'optimiser, c'est en gros l'utiliser à bon escient. Pas l'utiliser forcément pour regarder le sol. Si finalement on introduit la canne, c'est bien pour libérer le regard du sol. Et par exemple, pour quelqu'un qui a plus de possibilités visuelles, on va essayer de maximiser le potentiel auditif. Voilà, c'est assez dépendant de la personne, et puis pareil, en fonction de l'environnement aussi. Tout le monde n'habite pas dans le même environnement, donc on va essayer de proposer des choses différentes, même si le bagage et les techniques restent les mêmes, d'un environnement à l'autre. Mais voilà, on va essayer de s'adapter au maximum, et puis après, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas forcément la main, c'est les bases, les compétences cognitives et pour le coup qui sont dépendantes des personnes et sur lesquelles on n'a pas la main. Donc après, on peut essayer de trouver des stratégies ou essayer de trouver des petites astuces pour faciliter la compréhension et l'intégration des techniques. Mais voilà, on est assez finalement dépendant de la personne, de ses capacités, de son lieu d'habitation. Hein. Donc on est assez dépendant de ça. Et puis oui, globalement, pour revenir à la locomotion, mais en fait, on essaye au maximum de pas être sur ce qu'on appelle du par cœur. L'idée, c'est de transmettre justement des méthodes et des techniques qui pourront être transposables, peu importe l'environnement dans lequel on évolue. Par exemple, une personne qui habite à un endroit donné, et puis qui subitement doit déménager, l'idée, c'est qu'elle ne repasse pas forcément par la case locomotion, même si on peut reprendre quelques séances pour s'adapter et trouver des stratégies, mais l'idée, c'est que toutes les compétences, les habiletés apprises puissent être transposables, peu importe le milieu dans lequel on évolue. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je perçois le métier. dans l'idée, il faudrait que ce soit le moins dépendant des personnes, des instructeurs qu'on rencontre. Voilà, on a un bagage commun, mais après, on n'a pas la même formation de base, et puis on n'a pas du tout, finalement, la même...
La même approche par rapport
et
au
la
métier.
La même approche, ouais. par rapport au métier.
Quel était ton rapport avec le handicap visuel avant que tu deviennes instructeur en locomotion? Ouais. Quel est ton parcours
Alors moi, du coup, j'ai commencé en 2017. Donc je suis sorti d'une école de psychomotricité, donc je suis psychomotricien de formation. J'ai toujours travaillé dans le handicap, pas forcément le handicap visuel. Hein. J'ai travaillé en maison de retraite, j'ai travaillé dans des IME, des ITEP, voilà. Donc principalement quand même avec des enfants hein, au cours de ma vie. J'ai beaucoup travaillé avec des enfants, majoritairement d'ailleurs. Et puis donc j'ai commencé un poste en CESAD déficient visuel, donc un service qui propose de l'accompagnement à domicile auprès des enfants, donc dans le département de la Manche. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis un peu rentré dans la déficience visuelle, donc en tant que psychomotricien, et après bah, j'ai eu l'opportunité de passer la formation en 2020, enfin en 2019-2020, et d'être diplômé en 2020. Et donc maintenant j'exerce principalement le métier d'instructeur de locomotion, donc au sein de l'école de chien guide, et au sein du service enfant, celui que je viens de citer juste avant. Et voilà. Et j'interviens aussi un peu en libéral, voilà, pour des gens qui ont des demandes peut-être plus spécifiques ou qui seraient hors circuit classique, on va dire.
C'est ça la difficulté aussi du coup du métier, c'est de réussir à s'adapter à chaque personne que tu accompagnes. Parler des enfants, et nous on a souvent des adultes en fait qu'on accompagne. Donc comment tu arrives à t'en sortir par rapport au suivi des personnes? Est-ce que tu as des pistes de réflexion? Est-ce que tu as des outils qui te permettent d'accompagner au mieux la personne en fonction de son profil?
Bah alors l'approche est, on va dire, complètement différente avec les enfants et avec les adultes. Bah déjà on n'a pas les mêmes attentes. Hein. Un enfant, il faut amener du ludique, il faut trouver l'envie de travailler, parce que des fois ça peut être un peu rébarbatif. Et puis les enfants mettent pas toujours du sens sur ce qui est travaillé, donc en fonction des tranches d'âge, on va dire, voilà, on fera pas le même travail qu'on va faire avec un enfant de 5 ans qu'on va faire avec un enfant de 14 ans, par exemple. Voilà, la demande sera pas la même, et puis globalement, on n'attend pas la même chose d'un enfant de 6 et de 15 ans, par exemple. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Quand on accueille une personne pour une première demande de chien guide, donc elle est accueillie par plusieurs corps de métier, donc instructeur de locomotion, Stéphane qui le directeur qui va faire une visite du lieu de vie, il y a Stéphanie, la psychologue, il y a les éducateurs de chien guide. Voilà, donc c'est pluridisciplinaire. L'idée c'est d'avoir une vue d'ensemble, et voilà, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que voilà, ça repose pas sur une compétence. Chaque compétence est bien différente, même si à la fin on essaie de croiser nos regards pour essayer de proposer quelque chose d'adapté à la personne. Donc pour revenir dans le cadre de la locomotion, hein, le bilan c'est vraiment pour faire un état des lieux, hein. C'est évaluer les compétences, ce que la personne fait dans la réalité. Donc c'est vrai que souvent je dirais que faut mieux être transparent d'emblée, parce que de toute façon, y a ce que la personne peut voir, du moins ce qu'elle peut percevoir de ses capacités. Alors des fois, ça peut être des gens qui font plein de choses et puis finalement qui vont avoir tendance à se dévaloriser. Des fois, ça va être des gens qui vont peut-être avoir tendance à enjoliver un petit peu la réalité. Et finalement, quand on fait la sortie pratique, y a un écart entre ce qui a été dit et ce qui est fait. Des fois, il y a une petite erreur d'actualisation, ce qui est vrai. C'était vrai peut-être il y a 10 ans, c'est peut-être plus vrai maintenant, parce que y a peut-être la baisse visuelle qui s'est accentuée, il y a peut-être moins de déplacements, donc moins de sollicitations, donc moins de pratiques. Voilà, donc l'idée vraiment du bilan, c'est pas du tout de dire si c'est bien ou si c'est mal, ou de mettre une note positive ou négative, hein. L'idée c'est vraiment de faire un état des lieux, et un bilan en fait des compétences, hein, des points forts, des points faibles, de ce qu'il faut travailler. Et puis alors, pour revenir avec les enfants, on a aussi ce qu'on n'a pas avec les adultes, même si on l'a un peu quand même avec le conjoint, mais on a toute la famille en fait avec laquelle on travaille. Souvent il y a un peu ce qu'on appelle de la surprotection, mais d'ailleurs qui n'est pas forcément que chez les enfants. L'idée c'est de bah, d'essayer de faire évoluer, on va dire, les deux parties, l'enfant comme la famille, et d'ailleurs, avec les adultes, l'adulte en question et son environnement, que ce soit le conjoint, voilà. Donc, voilà, donc ça demande quand même de... Bah, pas mal d'adaptations, de trouver des stratégies. Il y a des choses qui marchent avec certains, qui marchent pas avec d'autres. Des gens qui vont peut-être pas mettre de sens sur ce qu'on travaille parce que bah, la finalité peut-être recherchée leur parle pas. Donc voilà, l'idée c'est vraiment... Enfin, moi j'aime bien partir globalement des attentes de la personne et après on essaye de se mettre d'accord sur bah, comment est-ce qu'on peut atteindre justement bah, les attentes de la personne. Et de mettre en place justement des séances qui, bah, qui vont permettre à la personne de retrouver voilà, des déplacements soit sereins ou d'acquérir des déplacements sereins. Ça dépend dans quel contexte on se situe.
Ça peut être un peu compliqué pour un conjoint, par exemple, qui accompagne la personne déficiente visuelle tous les jours, de devoir petit à petit un petit peu avoir réduit son application, l'accompagnement de la personne. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez
Alors ça, c'est des choses qu'on... Finalement, ça se travaille indirectement parce que finalement, quand on travaille la prise d'autonomie de la personne, bah quelque part, ça modifie des choses. Alors que si c'est dans un couple, oui, ça va modifier une dynamique de couple. Voilà, on va avoir peut-être le conjoint ou la conjointe qui va avoir... finalement, va gérer l'autonomie globale de la personne, donc les déplacements, etc. Et donc finalement, bah, quand on redonne finalement un peu d'autonomie à la personne, bah, ça libère... on va dire aussi de la charge mentale chez le conjoint et donc finalement bah oui ça tout se modifie en fait et donc des fois ça peut être douloureux pour certains qui voient leur conjoint bah, prendre de l'indépendance d'autres ça peut être un soulagement voilà c'est aussi l'intérêt des fois du travail en équipe hein, et l'intérêt aussi du psychologue, c'est que finalement, il y a au-delà du déplacement, il y a des fois des choses qui se jouent par justement la prise d'autonomie au quotidien.
Et quand tu es arrivé à l'école de chien guide à Mondeville en 2022, est-ce que tu as repéré, même maintenant, depuis que tu as 2-3 ans d'expérience avec les chiens guides, est-ce que tu as repéré des difficultés en particulier par rapport aux demandeurs parce que justement, là, tu avais plus d'expérience avec les enfants et quelles sont les difficultés les plus flagrantes que tu as pu rencontrer avec des demandeurs de chiens guides ?
Bah alors globalement, souvent la canne est quand même mise en opposition aux chiens guides. Hein. Bon, bah, par rapport à la description que j'ai pu faire un peu avant du métier, finalement, la canne c'est une infime partie du travail. Hein. Globalement, hein, pour bien utiliser un chien guide, hein, pour dans son quotidien, il faut quand même maîtriser. Bah, son environnement, avoir un bon bagage, et donc tout ça, ça passe quand même par un apprentissage bah, en locomotion. Donc c'est vrai que souvent, alors pas avec tout le monde, mais souvent les gens sont un peu réfractaires. Voilà, ils savent pas trop... Après, peut-être que ça vient aussi de la définition du métier, mais voilà, c'est pour ça que souvent le bilan qu'on fait lors d'une première demande, il est important, notamment bah, justement pour déjà percevoir un peu les capacités de la personne, et puis aussi pour lui présenter de manière un peu plus précise des choses qu'on peut lui amener. Mais ça va au-delà de la technique de canne, parce que finalement, la technique de canne, bah, c'est un outil. Une fois qu'on le maîtrise, finalement, après, ça ne demande que quelques séances, et voilà. Et après, il y a tout l'apprentissage. Généralement, les gens prennent conscience de ça, finalement, au cours des séances, parce que bah, finalement, la technique de canne, voilà, c'est le début, puis après... ils se rendent bien compte que voilà, ils ont besoin d'avoir plus de compétences, de mise en situation pour justement appréhender un peu mieux l'environnement. Et donc ça, bah, ça passe par l'apprentissage de différentes techniques, le développement de voilà de certaines compétences sensorielles, voilà. Et ça, c'est des choses qu'on travaille en locomotion.
Donc tout ce qui est repères spatiaux, techniques de traversée, c'est de toute façon des savoir-faire, des acquis qu'ils devront avoir pour le chien guide. Donc
exactement.
Ça va leur servir dans leur déplacement tous les jours avec le compagnon chien guide.
La grande question, ça pourrait être bah, pourquoi on ne travaille pas la locomotion uniquement avec le chien guide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé le chien guide sans voir un instructeur de locomotion, sans nécessairement avoir appris la canne. Bon voilà, après effectivement quand le chien bah, est plus là ou qu'il y a des difficultés qui sont liées, bah qu'est-ce qu'on fait? On arrête les déplacements ou est-ce qu'on sort la canne et on y va? Mais donc, pour sortir la canne et y aller, bah, faut quand même avoir appris auparavant les déplacements à la canne. Pour moi, c'est souvent quelque chose qui est mis en opposition, mais à tort d'ailleurs. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de se dire qu'en fait, c'est, on va dire que la locomotion, c'est un ensemble de choses, mais pas uniquement la canne, et c'est nécessaire dans le cadre du chien guide. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis la dernière promo d'instructeurs de locomotion, et que depuis maintenant, c'est ce qu'ils appellent les instructeurs pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles, et donc ça regroupe la locomotion et les AVJ. Donc voilà, maintenant c'est un seul et unique métier, et donc finalement qui englobe, on va dire, tout le pan de l'autonomie, déplacement et vie quotidienne.
Donc AVJ, oui, c'est aide à la vie journalière.
Exactement, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment un métier spécifique à l'ADV, ça n'existe pas dans d'autres handicaps. Dans les autres handicaps, c'est les ergothérapeutes, hein. Quand on a un problème moteur, bah, c'est un ergothérapeute. Voilà, c'est très spécifique à la déficience visuelle.
Et j'imagine que c'est plus compliqué d'accompagner une personne qui a été voyante et qui tombe malvoyante.
Alors c'est toujours la grande question. Ça dépend où on place le curseur. Bah, sur le plan psychologique, finalement quelqu'un qui perd la vue, c'est pas le même travail, enfin c'est pas le même accompagnement. Ils peuvent être réticents à la canne. Enfin, il y a d'autres freins. Quelqu'un qui naît non voyant, finalement il y a peut-être pas cette perte. Donc il y a sur le plan psychologique, je sais pas, faudrait questionner, mais c'est peut-être moins compliqué ou moins difficile à accepter. Par contre, là où ça peut changer un peu la donne, c'est que bah, quand on a vu, déjà on a une compréhension de l'environnement dans sa globalité qu'on peut difficilement avoir quand on est non voyant. Souvent c'est un peu parcellaire ce qu'on perçoit, et donc voilà. Donc oui, d'avoir vu, ça reste un atout pour comprendre, mais en même temps ça peut aussi terrifier, parce que du coup on a connu quelque chose voyant, et donc effectivement de plus avoir ce sens là et ça reste quand même un sens qui finalement coupe un peu tous les autres, hein. C'est compliqué même pour des gens qui sont malvoyants par exemple, où on va leur demander d'utiliser leurs autres sens. Bah, c'est un peu compliqué, même si leurs autres sens sont supérieurs à leur reste visuel. Bah, globalement c'est souvent le restant visuel qui l'emporte, et on a du mal à se détacher de ça. Parce que ça vient toujours mettre en contradiction, voilà, ce qu'on... Par exemple, il y a des gens qui entendent une voiture, on va dire, d'assez loin, et finalement, ils la voient de très près, donc on pourrait se dire que l'audition, en termes d'anticipation sur l'obstacle, est nettement supérieure à la vision, et bah pour autant, ils vont quand même essayer d'aller chercher l'info visuellement, voilà. Donc, pour revenir à la question, je dirais que c'est, encore une fois, dépendant des gens, et voilà, dépendant du milieu, enfin...
Chaque profil est différent. En fait.
Chaque profil est différent. Il y a des choses qui ont été acceptées pendant l'enfance. Enfin, voilà, en fait, c'est ça aussi qui est. Je dirais que c'est le côté intéressant, c'est que finalement, on a des méthodes, on a un bon socle de techniques, d'apprentissage, de ce qu'il faut faire. Et puis après, il y a la réalité. Il y a les personnes qu'on a en face de nous.
Est-ce qu'il y a des gens pour lesquels tu as fini par te dire au bout de plusieurs phases d'accompagnement, finalement, moi, je ne peux plus grand-chose pour cette personne.
Alors, bah, ça reste de l'humain, mais de l'humain des deux côtés. Hein. Faut bien savoir que les personnes qu'on accompagne, bah, ils ont leur vécu, hein, leur expérience, etc. Que nous aussi, on a notre vécu, nos expériences. Voilà, ce qui est important quand même, je trouve, c'est que on fasse tout pour que ça fonctionne et d'essayer de trouver justement toujours les petits leviers, bah, justement pour que ça fonctionne. En fait, c'est quand même ça l'idée, hein, c'est de Moi, je pars toujours du postulat qu'il faut quand même un peu essayer avant de... Voilà, et puis finalement, en fait, il y a peu de situations où ça fait ça, voire ça reste très à la marge. Là où ça peut être compliqué, mais c'est des gens plutôt, je dirais, qui ont plus des difficultés à accepter le handicap. Et donc là, forcément, la canne, bah, c'est un marqueur, hein. C'est là pour se signaler aux autres. Et donc là, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, bah, c'est compliqué, la loco.
Et selon toi, quelle qualité professionnelle, quelle qualité humaine il faut avoir pour être instructeur ou instructrice en locomotion? Parce que vous êtes assez peu nombreux, aussi dans la région de Normandie.
Il y a deux choses. C'est déjà, faut aimer forcément le contact avec le public. Enfin, ça me paraît compliqué de travailler dans ce milieu-là si on ne se sent pas à l'aise avec ça. Je dirais aussi qu'il faut être capable de prendre les gens comme ils sont. voilà, de tenir compte de leur parcours. Donc des fois, ça peut générer un peu d'agacement parce qu'on se dit, mince, ils passent quand même à côté de plein de choses. C'est quand même dommage de passer à côté de ça, alors que bah voilà, finalement, ils ont plus à gagner à être autonomes que de ne rien faire. Mais bon, voilà, à part le dire, voilà, on essaie de démontrer par A plus B que ça n'a pas forcément d'incidence. Pour revenir aux qualités, ça n'a rien à voir avec une qualité forcément professionnelle, mais enfin, il faut quand même être à l'aise dans des situations nouvelles à chaque fois, parce que voilà, un environnement ne fait pas l'autre. Des fois, on arrive, on se dit « Ah, on ne connaît pas ce cas de figure, il va falloir essayer de trouver une solution. » Donc, il faut quand même être capable de s'adapter, je dirais, d'être à l'écoute. Mais l'idée, c'est plutôt de montrer les possibles. La situation dans laquelle vous êtes, c'est ça. Et ben, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez retrouver de l'autonomie, conserver votre autonomie. Voilà, et des fois ça crée pas des vocations, mais ça, voilà, ça fait sortir les gens de chez eux alors qu'ils imaginaient pas que ce soit possible avant. Globalement, alors pour faire des parallèles avec d'autres métiers, je trouve qu'il y a un côté assez satisfaisant parce qu'on voit tout de suite et assez rapidement le bénéfice qu'on peut amener dans le quotidien des gens. C'est-à-dire que globalement, des fois, c'est des gens qui se déplacent plus trop, seulement accompagnés. Donc voilà, dans le cadre d'une rééducation, on peut tout de suite voir, je trouve que c'est ça le côté un peu chouette aussi du métier, c'est que tout de suite on voit le bénéfice apporté aux personnes. Moi, pour avoir travaillé par exemple avec en maison de retraite, par exemple, pour donner un exemple assez parlant, c'est compliqué de voir des améliorations, mais on peut dire aussi qu'on contribue à maintenir l'existant, voilà. Là, effectivement, dans le cadre de la déficience visuelle et dans le cadre du métier d'instructeur, on voit tout de suite les bénéfices. Enfin, voilà. C'est des personnes peut-être qui sortaient bas de chez eux. Et après une rééducation, elles arrivent à aller acheter du pain, se rendre à tel point. L'idée, c'est vraiment de retrouver un peu confiance en soi. Et donc ça, c'est un peu gratifiant, je trouve.
Et quand on parlait de la CAN tout à l'heure, comment, toi, tu expliquerais le fait qu'il y ait quand même une assez grande méconnaissance des personnes qui tombent malvoyantes ou non-voyantes, qui se font prescrire par exemple une canne, ouais. Une canne qu'ils vont après acheter en pharmacie, qui n'est pas du tout adaptée pour eux, et derrière, qui ne sont pas au courant qu'en fait, ils peuvent être accompagnés par un instructeur en locomotion pour la taille de la canne, pour l'embout.
Je dirais qu'à la fois, la déficience visuelle, c'est un petit monde, mais qui concerne beaucoup de monde finalement. Qui est assez méconnu. On connaît pas trop les professionnels de la basse vision. Généralement, quand on connaît, c'est que on est concerné. Donc ça vient aussi de là, je pense. Et puis aussi, voilà, les médecins aussi, tous ne sont pas, voilà, ils imaginent que il suffit juste de prescrire une canne et puis d'aller à la pharmacie du coin, d'acheter sa canne et puis voilà. Puis ça se fait naturellement, quoi. Donc c'est aussi l'intérêt d'aller sensibiliser les professionnels de santé qui rencontrent des personnes déficientes visuelles. On a beaucoup, enfin souvent c'est des gens qui sont quand même un peu démunis, qui voilà, quand on leur annonce un diagnostic, ils savent pas trop où aller, quoi, chez qui se tourner. Donc souvent la porte d'entrée, c'est quand même les associations, on va dire, qui recueillent le retour, ou pas le retour, mais qui réceptionnent les gens post-diagnostic. Après, il y a des gens qui sont très moteurs, et puis ils prennent ça, et puis ils essaient d'aller chercher des infos, et puis finalement, ils finissent par les trouver. Il y a des parcours, encore une fois, très hétérogènes. L'idée, moi, je trouve que ce serait quand même, si c'était possible, d'orienter, quand on donne un diagnostic, ou quand on pose un diagnostic, de pouvoir orienter ou au moins dire ce qui existe, quoi. Après, c'est quand même fait au niveau du territoire, par exemple avec les enfants. Enfin voilà, dès qu'il y a un enfant pour lequel il y a une déficience visuelle, tout de suite, il a un dossier, c'est mis en... Mais chez l'adulte, je trouve que c'est pas du tout fait de cette façon-là. Ça, le diagnostic tombe et après, ils repartent comme ils sont venus avec ça. Et par expérience, beaucoup de gens... C'est pas que moi, c'est pas moi d'ailleurs qui dis ça, c'est par rapport aux échos que j'ai l'impression que ça se passe quand même majoritairement comme ça.
Est-ce qu'au travers de ton métier d'instructeur en locomotion, t'es amené du coup à faire des sensibilisations ?
Alors soit dans le cadre de formations en lien avec un parcours de formation, mais ça peut être par exemple dans le cadre des enfants, ça peut être au cours... les AESH, c'est les personnes qui accompagnent les enfants en classe, les porteurs de handicap. bon voilà, il y a une journée qui est organisée et souvent on fait de la sensibilisation, donc au déplacement, etc. Il faut pas aussi, voilà, des fois on va dans les classes aussi pour justement mettre un peu en perspective ce que, parce qu'il y a, la description qu'on peut faire de l'enfant sur ce qu'il lui faut, ce qu'il lui faudrait, etc. Et puis il y a, clairement quand on se met dans la situation, on se dit ah oui, bah finalement c'est vrai que maintenant ça me parle. Pourquoi faut accentuer les contrastes? Pourquoi faut pas le mettre devant une fenêtre? Enfin voilà, c'est plus parlant des fois, voilà, quand on est quand on y est confronté. Après, avec les adultes, ça peut être... voilà, ce qui est intéressant, c'est de faire avec, par exemple, les sociétés de transport dans les villes. Voilà, parce que c'est pas toujours très adapté, parce qu'il y a une forme de méconnaissance voilà, du handicap. Donc, effectivement, sensibiliser, c'est quand même important, je pense. Et puis, voilà, plus on... J'aurais tendance à dire, plus on en parle, bah, plus on est visible. Donc, plus on est visible, bah, moins il y a de gens, peut-être, qui errent et qui... voilà. Donc voilà, ça a un double intérêt, ça donne des petites billes pour savoir accompagner une personne quand on a une personne en situation de handicap, que ce soit dans le cadre de l'emploi ou dans les collectivités, et puis ça fait parler un peu du réseau, voilà, de ce qui existe, voilà, ça peut être des fois des gens qui se disent « ah bah on savait pas que ça existait », voilà.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de notre journée porte ouverte dimanche 28 septembre de 14h à 18h au 6 rue Brière à Mondeville, aux locaux de l'association, où plusieurs actions de sensibilisation vous seront proposées et en compagnie des remises de chiens guides formées cette année avec différentes rencontres de bénéficiaires de chiens guides et de familles d'accompagnement. Merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous et puis merci de nous avoir un petit peu éclairé sur... le métier d'instructeur en locomotion. Est-ce que pour terminer, tu as un message à communiquer à nos bénéficiaires ou à nos futurs bénéficiaires?
Si je devais faire une synthèse, c'est que voilà, faut essayer de pas avoir une idée trop préconçue de ce qu'est la locomotion en école de chien guide. L'idée, c'est de toute façon de faire évoluer la personne. Donc globalement, l'instructeur sera toujours soutenant. Voilà, en spécifiant, bah, s'il y a des mises en danger, voilà, on est obligé aussi de donner une image de la réalité, hein, et pas leurrer les gens non plus. Mais voilà, l'idée, c'est toujours dans une optique de progression. Si vraiment les gens peuvent retirer ça de la locomotion, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'émanciper, de gagner de l'autonomie pour que, justement, derrière, l'acquisition du chien guide se fasse de manière fluide.
Merci beaucoup Clément pour toutes ces explications.
Mais de rien.
Et à bientôt. N'hésitez pas à retrouver ce podcast sur le site internet avudetruffe.com, rubrique podcast, sur nos réseaux sociaux, donc page Facebook, site internet et page Instagram et LinkedIn.